La 15e édition de la Foire du Pacifique s'est achevée sur un beau succès. Pendant 3 jours, ce sont des milliers de personnes qui se sont rendues sur place pour découvrir les 250 stands qui étaient installés sur place. Un rassemblement pour la bonne cause, la lutte contre le cancer du sein. Ce matin, plus de 5000 participantes ont pris part à l'édition 2025 de la Nouméa NOPT. La 94e édition du pèlerinage de Tomo, plusieurs centaines de pèlerins ont participé. La grand-messe a été célébrée cet après-midi par Monseigneur Sionepo et l'archevêque de Nouméa. L'annonce du futur gouvernement Le Cornu se fait toujours attendre. Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de lui remettre sa copie le plus rapidement possible. De l'émotion, mais aussi encore beaucoup de méfiance. À Tel Aviv, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies ce matin, tout attendre le retour des otages israéliens détenus à Gaza. De belles sensations sur la Pérignon Alliance VTT 2025 dans le Grand Sud, sur le parcours de 33 km. C'est Alix Dudouet qui s'est imposée. Et puis pas d'exploit pour les jeunes footballeuses de la sélection des moins de 19 ans en finale du tournoi AOFC. Nos représentantes se sont inclinées face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 3-0. La Foire du Pacifique a connu un beau succès populaire. L'édition 2025 s'est achevée ce soir. Les organisateurs affichent une belle satisfaction. Même après 17 heures, il y avait encore un beau public. Nous serons d'ici quelques instants avec Bruno Aurelio, le gérant de Pacific Fair, l'organisateur de cette Foire du Pacifique. Les organisateurs heureux du côté des exposants, vous allez l'entendre, c'était aussi une grande satisfaction à l'heure où la foire refermait ses portes. L'événement était une vitrine pour de nombreux professionnels.
Plein d'espoir pour l'artisanat local, beaucoup de monde, beaucoup de passages, beaucoup de gens intéressés, des touristes, donc on continue.
Pour moi, ça s'est très bien passé. Donc vendredi, samedi, ça a été super journée. Aujourd'hui, un peu plus calme pour moi, mais il y a eu quand même beaucoup de trafic, d'affluence. Et donc, ça donne du baume au cœur.
La mixité des gens. Beaucoup de gens, beaucoup de gens qui viennent de toute la Calédonie. Très agréable à discuter ensemble. Très important d'être là, ouais.
Moi, je suis gérante du club de plongée de Koumac. Eh bien, je suis plutôt satisfaite parce que c'est vrai que moi, j'ai ouvert ma structure il y a à peine 2 ans. Et les émeutes sont passées par là, donc ça a été très très compliqué. J'ai fait la Foire du Pacifique l'année dernière et c'était beaucoup rassurer les gens sur le fait qu'on pouvait venir dans le Nord. Et là, cette fois, c'était présenter les activités pour que les gens viennent nous voir. Donc là, vraiment, je suis contente. Honnêtement, c'était bien.
Et un stand Radio Rythme Bleu était bien évidemment sur place pendant ces 3 jours pour vous rencontrer, mais aussi pour vous faire jouer comme au traditionnel jeu de la roue Radio Rythme Bleu, sans oublier le grand jeu de la Foire du Pacifique avec RRB Ambiance.
Bonjour. Madame, bonjour, comment vous appelez-vous?
Manouya.
Manouya. Vous êtes venu pour gagner, non? Félicitations!
Bravo!
Félicitations!
Les résultats du grand jeu avec RRB. Et maintenant, on va procéder au tirage. On a procédé au tirage au sort pour les 10 lots. Et le premier lot, en fait, c'est un billet d'avion pour Sydney et aussi un billet d'avion pour Brisbane. Ça, c'est le gros, gros lot offert par notre partenaire Arcalin pour ce grand jeu RRB. Un billet d'avion pour Sydney et aussi un billet d'avion pour Brisbane. Donc, 2 billets d'avion. Et là, c'est pour...
Alors, on va commencer par le billet d'avion pour Sydney. Pour Sydney, ça sera Alicia Vikena. Et maintenant, pour Brisbane, ça sera Nelly Pingué. Nelly Pingué.
Ça vous fait quoi d'avoir été l'une des gagnantes de ce jeu?
Eh ben, je suis contente. J'ai l'impression que chaque fois que je participe ce genre de tirage à sort, je gagne quelque chose. Donc, je savais, entre guillemets, depuis le début que je vais gagner quelque chose.
Voilà, de belles festivités pendant 3 jours sur la Foire du Pacifique. Écoutez, Bruno Aurelio, c'est le gérant de Pacific Fair, l'organisateur de cette Foire du Pacifique.
Je pense, merci, un grand, grand merci aux exposants de nous faire confiance depuis 15 ans et à ce public qui répond à l'appel chaque année. De plus en plus, on avait espéré passer la barre des 20 000. Je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais il est 5 heures passées. Et on dit aux gens malheureusement que la foire est finie parce qu'ils veulent encore rentrer. Donc je pense que la barre des 20 000 sera largement passée. Donc on est très 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 heureux, d'autant plus heureux que tout s'est très bien passé, que des moments de partage, de sourire dans les stands entre les différentes communautés. C'était aussi un des grands objectifs de cette année. Resserrer un peu les liens entre tout le monde. Donc tout s'est fait dans une ambiance extraordinaire. Côté économique, pour avoir fait le tour des stands un petit peu dans tous les pôles, très 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 largement, ça c'est très positif. C'était un peu l'inconnu cette année. On sait que le point de vue économique c'est compliqué, mais on s'aperçoit en discutant dans le tourisme local, l'artisanat, le commerce, les gens qui sont venus de Tahiti, du Vanuatu, tous sont ravis, la gastronomie pareil, donc ça a vraiment bien marché économiquement, ils repartent avec le sourire et une trésorerie un peu mieux remplie que ce qu'elle n'était il y a encore quelques jours, donc non, ravis pour eux, voilà, ravis pour tout le monde, donc pour clôturer, un grand merci à tous et à l'année prochaine.
Le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour l'année prochaine.
Oui, le rendez-vous il est là, évidemment on sera là encore, j'espère, pour les 15 prochaines années, évidemment. Là c'est trop tôt, on est tous contents mais très fatigués également, donc j'ai aucune idée de l'invité d'honneur de l'année prochaine. On va se laisser un peu de temps digérer cette très très belle édition, et puis je vous promets qu'on fera encore les choses encore plus grandes pour l'année prochaine.
Bruno Aurelio, le gérant de Pacific Fair, l'organisateur de cette foire du Pacifique, une foire qui célébrait cette année ses 15 ans d'existence. Plus de 250 stands, je vous le rappelle, étaient sur place pendant 3 jours. Un engouement populaire toujours au rendez-vous pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Plus de 5000 participantes étaient engagées ce matin sur la Nouméa NOPT 2025. Michael Juneski.
Elle reste fidèle à ce rendez-vous pour la bonne cause. Et ce, même si l'événement a changé de lieu cette année, non plus le long des baies de la ville, mais sur l'hippodrome Henri Millard, où les vagues roses ont déferlé les unes après les autres dans une belle ambiance.
C'est la première fois autour de l'hippodrome, mais vraiment un succès fou déjà, 5000 femmes. Ça prouve qu'on est toutes là et solidaires. C'est magnifique.
C'était bien court, mais ça va. Pour un début de dimanche, commencer avec le sourire. Ça va marcher aussi avec les mamans.
Non, c'est super.
À refaire.
Ah ben c'est très bien. Oui, enfin c'est un moment convivial, hein. C'est très bien. Enfin, on est en couple là. C'est un moyen de se retrouver avec les filles, les femmes, des femmes qu'on connaît pas, on fait connaissance.
C'était super bien. Et le dimanche, c'est aussi pour soutenir les causes pour les femmes. Donc voilà, on est tous là pour ça.
Super sympa. Hein. Regardez toutes les personnes que nous avons autour de nous et qui sont ravies.
Bah, c'était très bien, il y a le soleil qui est là, les copines, la musique, tout qu'il faut quoi.
C'était super comme toujours, on adore. On se retrouve avec les copines, on marche et on pense fort au cancer et à la lutte surtout.
C'est la Ligue contre le cancer du sein.
Extraordinaire, comme chaque année. Très très belle cause.
Je pense que pour les enfants, plus tard, c'est important de soutenir cette association contre le cancer. Merci à eux d'ailleurs et puis merci à RRV.
L'événement reste toujours aussi populaire et un village d'animation et des stands de sensibilisation avaient été installés pour l'occasion. Jean-Maurice Sotériau est le président de la Ligue contre le cancer.
Je pense que ça peut être que perfect. Les gens étaient formidables pour mettre en place ça et je trouve que même les bénévoles sont vraiment très très disponibles ce jour-là et on voit la motivation encore une fois de plus. La preuve, ça donne envie de dire « Ah, on prend en compte les femmes qui ont le cancer du sein, mais là, il faut l'affirmer aujourd'hui. C'est 20 ans, c'est pas pour rien. »
Il s'agissait de la 20e édition donc de la Nouméa NOPT, manifestation organisée dans le cadre du mois Octobre Rose, avec de multiples actions pour soutenir la Ligue contre le cancer.
Actualité religieuse et plusieurs centaines de fidèles étaient rassemblés cet après-midi lors de la célébration de la messe présidée par Mgr Sione Poé. Des pèlerins venus renouveler leur foi et leur confiance à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Kélinda Boiscou.
Les pèlerins étaient réunis depuis ce matin à la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Tomo. Aujourd'hui, ils étaient plusieurs centaines de pèlerins à s'être rassemblés sous un soleil de plomb afin de rendre hommage à Sainte-Thérèse à l'occasion de ce 94e pèlerinage. Autant de jeunes que d'adultes sont venus de Thio, Bouloupari, Païta, d'Imbéa ou de Nouméa. Une messe célébrée par Mgr Susitino Sione Poé.
Mais c'est une grande joie du fait que Tomo, c'est pas nouveau, qui permettait à tous les amis de Sainte-Thérèse à marcher ensemble dans la foi pour vivre ce moment fort de prière, de célébration. Donc c'est avec joie que j'ai vécu cette journée à travers la célébration de l'Eucharistie.
Quel était le message que vous vouliez faire passer à travers votre homélie?
Mais c'est un appel à la confiance en faisant honneur à Sainte Thérèse, la petite Thérèse, elle qui a tout donné en s'abandonnant entre la miséricorde et l'amour de Dieu. Donc c'est un exemple pour nous, un modèle. Nous qui sommes appelés aujourd'hui à travers les lectures à faire confiance au Seigneur. Avec la force de Dieu, tout est possible. Quelle que soit notre situation de vie que nous traversons, les hauts et les bas, il faut toujours garder confiance.
Comme chaque année, les fidèles ont répondu présents à ce pèlerinage en l'honneur de Sainte Thérèse, la patronne des missions.
Pour la première fois, le collège Saint-Joseph de Cluny en Svata a participé au pèlerinage de Tomo. On va dire que c'est la pastorale du collège qui a organisé ça. Et on a voulu tenter l'expérience cette année. J'ai profité que j'étais à Cluny pour pouvoir initier aux enfants le pèlerinage de Tomo. On n'a pas fait un chemin de croix, mais on a fait un chemin d'espérance. Enfin, on a pu s'adapter avec les phrases de Sainte Thérèse et puis les extraits de la Bible.
Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette célébration?
Déjà les chants, parce que les chants, merci en tout cas à la chorale d'avoir mis en avant des chants que tout le monde puisse chanter, que tout le monde connaît. Et c'est le fait d'avoir vu tous les pèlerins, malgré tout, ils étaient là et puis ils ont chanté avec nous tous en cœur. Et c'était surtout ça l'unité, et puis comme l'évêque l'a rappelé, les pèlerins d'espérance.
Je ne rate jamais ce pèlerinage. Je viens de Cluny, parce que Sainte Thérèse, c'est ma patronne. Et puis lundi, il m'a fait pleuvoir sur les hommes des pluies de roses d'amour.
De Nouméa, quoi, rivière salée, c'est formidable. Là, on revit un peu, quoi, il y a un peu moins de monde. Avec notre évêque, là, c'est formidable.
Tous les ans, les Sainte Thérèse, ça me présente beaucoup, énorme aussi pour moi. Oui, parce que c'est un rassemblement de Nouvelle-Calédonie ici à Tomo.
Des pèlerins qui se sont donné rendez-vous l'an prochain pour le 95e pèlerinage de Tomo. Kélinda Boicou de la chapelle Sainte-Thérèse de Tomo, Radio Rythme Bleu.
Ouvrons à présent l'agenda de la semaine qui va débuter. Il s'agira de la semaine d'information sur la santé mentale et elle est relayée en Nouvelle-Calédonie par le CHS Michael Geneski.
Le CHS qui propose toute la semaine des conférences, des ateliers, des témoignages, mais aussi des expositions, une série d'animations gratuites et ouvertes à tous. Ce sera aussi la semaine bleue au cours de laquelle la mairie de Nouméa propose des activités pour les seniors. On notera aussi que c'est demain le coup d'envoi du CIPAC Challenge qui se poursuit jusqu'au 20 octobre. Mercredi, le vice-rectorat organise les Olympiades 2025 de sciences de l'ingénieur qui auront lieu à la station N. Jeudi, séance importante au congrès de la Nouvelle-Calédonie puisque les élus doivent habiliter le président du gouvernement à signer les conventions relatives au second prêt garanti par l'État. Plusieurs rendez-vous festifs vont rythmer cette semaine. À Nouméa, un jeudi du centre-ville spécial Tahiti s'installera sur la place des Cocotiers. Samedi, de nombreuses animations sont organisées dans le cadre d'Octobre Rose, destiné à la lutte contre le cancer du sein. Vendredi, ce sera le début de la fête communale de Kwawa qui se poursuivra samedi. Et enfin, dimanche prochain, ce sera le grand retour de la fête du bœuf à Païta. Et puis, cette information pratique, à partir de demain, des travaux seront réalisés sur la RP4 dans le secteur de la tribu de Nassira, sur la commune de Bouloupari. Le chantier sera réalisé deux jours en circulation alternée jusqu'au 6 novembre. Soyez donc prudents si vous devez emprunter cette transversale.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Demain, nous parlerons musique avec notre invité du matin, Vanuela Watt sera en effet dans nos studios à 7h30. La chanteuse calédonienne vient d'enregistrer un nouveau titre, La même couleur de cœur, dans lequel elle parle des violences de mai 2024. Vanuela qui sera donc notre invité du matin à 7h30 demain. Et puis je vous rappelle que juste après ce journal, vous pourrez retrouver la rediffusion de Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Vendredi midi, c'est Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle qui était l'invitée d'Elisabeth Noir. Interview à retrouver à la fin de ce journal, mais aussi, vous le savez, en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Il est pratiquement 18h, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Jusqu'au 17 octobre, gagnez un séjour de rêve à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre à couper le souffle en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 17 octobre à 14h. 371 francs le SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité.
Vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
À l'actualité politique en métropole et l'annonce du futur gouvernement Le Cornu qui se fait toujours attendre. Le chef de l'État en personne, Emmanuel Macron, a demandé à son Premier ministre de lui remettre sa copie le plus rapidement possible. La présentation du futur gouvernement pourrait donc être dévoilée cette nuit, demain matin, demain soir pour nous, au plus tard. Un gouvernement qui devrait être resserré autour de 25 ministres contre 35 actuellement. Ces dernières heures, la pression se fait donc de plus en plus forte sur le Premier ministre avec de très nombreux points de blocage. Jacques Sorey pour Europe 1.
Sébastien Lecornu voit l'ambiance devenir de plus en plus tendue avec ceux censés être ses alliés. Les Républicains doutent encore de leur participation au prochain gouvernement. Bruno Retailleau devait acter la position du parti lors d'une réunion en visioconférence avec les parlementaires hier soir, mais celle-ci a été reportée. Du côté du Modem, les rapports avec Matignon sont tout aussi distants. Le parti de François Bayrou réclame une clarification, refuse d'être la variable d'ajustement de négociations avec la droite républicaine ou le parti socialiste. Conséquence, pour tenter de reprendre la main, le Premier ministre va envoyer un courrier à toutes les composantes du socle commun. Reste que cette feuille de route, cette lettre d'engagement avait été promise aux Républicains depuis lundi et qu'ils ne l'ont toujours pas reçu. Dans le même temps, les socialistes maintiennent la pression. Si la donne ne change pas, nous nous dirigeons tout droit vers la censure, menace le premier secrétaire du PS Olivier Faure. À défaut d'être nommé, les futurs ministres de Sébastien Lecornu sont déjà prévenus.
Jacques Sorey du service politique d'Europe 1. En bref, deux morts et des dégâts matériels importants. Bilan très lourd après le passage de la tempête Amy. Arrivée d'Irlande, elle a balayé le nord de la France. Un homme est mort noyé à Étretat, un autre a perdu la voie au volant de sa voiture après la chute d'une branche d'arbre. Ça s'est passé dans l'Aisne. Des rafales de vent qui ont également causé de très nombreux dégâts. Hier soir, 13 000 foyers étaient encore privés d'électricité en Normandie. À Nice, la sidération après le choc. Plusieurs victimes de la fusillade dans le quartier des Moulins n'avaient rien à voir avec le trafic de stupéfiants. C'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Nice. Hier, deux personnes sont mortes, cinq autres ont été blessées. Un règlement de compte sur fond de narcotrafic. Les auteurs des faits semblent avoir tiré à l'aveugle à proximité d'un point de deal. Les assaillants ont réussi à prendre la fuite et sont toujours recherchés. C'est un procès qui passionne les Français. Je veux parler du procès de Cédric Jubilard. Après deux semaines d'audience, toujours pas de réponse à la question que tout le monde se pose. Cédric Jubilard a-t-il tué sa femme Delphine, disparue en décembre 2020? Les débats reprendront demain avec des auditions déterminantes. Charles Luyer pour Europe 1.
Le principal atout de Cédric Jubilard, ce sont ses deux avocats. Emmanuel Franck et ses punchlines incisives, puis Alexandre Martin, au ton plus solennel. Depuis deux semaines, le tandem tente avec un certain talent de semer le doute dans la tête des jurés. Leur stratégie est la suivante, prouver que l'affaire Jubilard est fragile. Le binôme connaît en plus parfaitement le dossier, parfois davantage que les experts ou les gendarmes qui se sont succédés à la barre depuis deux semaines. Le directeur d'enquête a été leur première victime en début de procès. Delphine était en contact avec deux hommes par messagerie. Vous ne les avez jamais interrogés, lui a-t-on lancé. Même chose lorsque la partie civile rappelle les sorties malheureuses de l'accusé. Tu sais très bien que c'est moi qui l'ai tué, aurait-il dit à un ami. C'était une ironie pas forcément drôle, concède la défense, mais à quel moment était-ce un aveu, questionne-t-elle. Différents exemples qui illustrent un dossier où existe, c'est vrai, un gigantesque faisceau d'indices, mais pas de preuves matérielles solides. C'est justement sur cette ambiguïté que la défense va surfer. L'amant de Delphine, un ton suspecté, témoignera demain. Il n'échappera pas aux questions des deux avocats.
Charles Luyer du service police-justice d'Europe 1. Le verdict du procès de Cédric Jubilard est attendu le 17 octobre. À l'étranger, entre émotion et méfiance, tel était l'état d'esprit des dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies ce matin pour nous, place des otages à Tel Aviv. C'est maintenant ou jamais, pouvait-on lire sur une gigantesque banderole, car tous le savent, le plan de paix de Donald Trump, accepté en partie par les islamistes terroristes du Hamas, est aujourd'hui la seule façon d'obtenir un accord et donc d'un retour des derniers captifs. Leurs proches restent prudents, mais ils veulent y croire. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
La place des otages, Dalia Horn semble la connaître par cœur. Comme chaque samedi, entourée de sa famille, elle prie pour le retour de son beau-frère Eitan, toujours otage à Gaza. Depuis 2 ans, l'inquiétude et les faux espoirs lui volent chaque nuit son sommeil. Alors cette fois encore, elle veut rester prudente.
Oui, nous avons été souvent déçus, donc on a très peur d'avoir de l'espoir. Mais cette fois, je veux croire que ça va marcher et que cette semaine, je pourrai prendre mon beau-frère dans mes bras.
Plus loin dans la foule, Raghit Ren, elle, attend un miracle. Son fils, Itai, soldat pour l'armée, a été enlevé le 7 octobre et déclaré mort il y a 1 an et demi. Mais elle refuse d'y croire.
On n'a jamais été aussi proche de revoir Itai et les autres otages. De toute façon, on ne peut pas perdre espoir. On n'a pas le choix.
De l'espoir aussi pour Dani Miran, père d'Omri Miran, toujours détenu à Gaza.
Je compte sur Donald Trump pour établir un processus clair. Il faut décider d'un calendrier précis. Sans cela, les négociations ne fonctionneront jamais.
Autour de lui, les gens écoutent, prient, pleurent même parfois, avant d'entonner tout son cœur l'hymne israélien.
Antoine Bienveau, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. J'ajoute qu'en début d'après-midi pour nous, le président américain a lancé un nouvel avertissement au Hamas. Aucun retard ne sera toléré, a dit Donald Trump. Les négociations vont se tenir dans les toutes prochaines heures au Caire, en Égypte, pour finaliser les conditions de libération des otages israéliens. Il est 18h06, on marque une dernière pause dans ce journal. À suivre l'actualité sportive et la météo.
Les 9 et 10 octobre prochains, le jeudi du centre-ville célèbre Tahiti au grand cœur.
La ville de Nouméa vous invite à 2 jours de fête sur la place des Cocotiers, dans une ambiance chaleureuse et colorée.
De 9h à 19h, de l'artisanat d'art, des stands culinaires et de nombreuses animations. Toutes les saveurs, les couleurs et les rythmes du Fénoua, en plein cœur de Nouméa.
Les 9 et 10 octobre, Tahiti vous ouvre ses bras. Toutes les infos sont sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et en Calédonie, il y avait un grand rendez-vous pour le VTT ce dimanche, la Pérignon Alliance 2025, organisée dans le parc de la Rivière Bleue.
Oui, sur le parcours phare de 33 km, Alix Dudouay qui s'est imposé sur un temps d'1h36min27s devant Romain Lègle et Frédéric Coulson. Caroline Favier termine, elle, meilleure féminine, 7e au classement scratch. Chez les dames, elle devance Jessica Bélinguez et Sabrina Lelier. Plus de 200 participants étaient engagés sur cette épreuve mise en place par Pro Events. Au lendemain du trail qui avait déjà attiré plus de 500 coureurs, Damien Boutelier, co-gérant de Pro Events, directeur de course de la Pérignon Alliance VTT.
Que des sourires à l'arrivée, des gens heureux. En plus, le temps a été de la partie et on est bien préservés encore. Une belle bagarre pour les champions de devant et du plaisir à rouler pour les randonneurs derrière. Donc, on est très heureux de la participation et de la satisfaction de nos participants. On a passé vraiment un super week-end déjà nous-mêmes en tant qu'organisateurs et je pense que les gens ont vraiment apprécié voilà, le côté aventureux de ce week-end avec le trail d'hier, le kayak de nuit vendredi et samedi soir, les repas préparés par l'association de IAT et clôturés par le VTT aujourd'hui. Vraiment super, un très beau week-end au soleil en plus, donc tout le monde très satisfait et nous en tant qu'organisateurs aussi.
Et désormais on connaît les champions du Sud Tourisme VTT Pro Tour 2025, Alix Dudouay donc qui l'emporte tout comme Caroline Favier qui conserve sa couronne chez les féminines, double événement qui était organisé en partenariat avec RRB.
En badminton, les jeunes pratiquants ont passé tout le week-end à l'arène du Sud de Païta pour les championnats territoriaux de leur catégorie d'âge.
Un site de compétition sur mesure pour enthousiasmer de très jeunes joueuses et joueurs. Ils étaient près de 90 participants en lice. Johanna Kou, la présidente de la Ligue calédonienne.
Vraiment, la mairie de Païta nous a octroyé la Reine du Sud. Pour cet événement-là, habituellement, on fait des championnats jeunes qu'en série simple. Vu la salle qu'on a, elle est magnifique. On a ouvert du coup les tableaux en double et en mixte. 88 participants, hein, et puis on a nos poussins jusqu'aux juniors. Donc ça nous fait vraiment un panel de jeunes et sur toutes les générations. Hein. J'ai vu beaucoup de nouvelles participations de jeunes hein, qui ont été voilà émulsifiés par le fait qu'on fasse le championnat à la Reine du Sud, je pense. Hein, donc ils ont tous fait le déplacement pour participer à cet événement.
Et parmi les vainqueurs du week-end, le jeune Liam Sargito, il a décroché le titre être chez les minimes garçons.
Je trouve que c'est vraiment cool. C'est la première fois que, en tout cas moi, je joue dans cette salle. Et puis c'est une très très grande salle. Et puis c'est vraiment bien. Il n'y a pas très longtemps, en début d'année, j'ai fait les Osania. Du coup, c'était beaucoup de pression parce que il y avait beaucoup de monde, il y avait des arbitres. C'est une très bonne occasion d'emmener plein de gens à jouer ici.
On signalera encore les succès de Nathan Kachawan en Benjamin, de Maë Sargito en cadet, de Yun Lebrun en junior, de Jules Milési en poussin, d'Emile Nguyen en Benjamin, d'Augustine Capitaine en cadette, d'Olympe d'Archeville en minime fille et d'Aileen Roland-Higa en poussin fille.
Un coup d'œil au reste de l'actualité sportive sur le territoire avec également la fin du championnat de Calédonie des rallyes.
Ouais, la dernière manche, c'était à Tomo Valley, un final en nocturne à l'issue des 11 spéciales de ce samedi. L'équipage Kevin Bertonnier et Cyril Letézer sur Mitsubishi Evolution 8 a devancé la Ford Fiesta R5 de Jérôme Martinatti et Jean-Luc Togibbe. L'équipage Nicolas Leandro, Jean-Michel Maillet sur Mitsubishi Evolution 9 se classe 3e. Le duo Hendrik Maui et Frank Kachawan termine à la 4e place et finit donc grand champion au classement territorial 2025.
Hors du territoire, on parle football, Mickaël, avec tout d'abord la sélection calédonienne féminine des moins de 19 ans qui termine vice-championne d'Océanie.
En finale du tournoi OFC féminin, les Calédoniennes ont tenté de tenir tête aux redoutables néo-zélandaises sur les terrains de Punahouia à Tahiti, mais sans parvenir à s'imposer, nos représentantes s'inclinent 3-0. On rappelle que les Calédoniennes avaient déjà décroché leur billet pour la Coupe du Monde de leur catégorie d'âge l'année prochaine en Pologne.
Et chez les garçons, c'est demain le dernier match de groupe des Calédoniens au Mondial des moins de 20 ans.
L'apprentissage du haut niveau sur les terrains du Chili, après la défaite contre les États-Unis 9-1, puis contre l'Afrique du Sud 5-0, les Calédoniens retrouveront l'équipe de France jeune, les Bleuets, pour finir cette Coupe du Monde. Les tricolores, eux, doivent à tout prix s'imposer pour tenter de poursuivre l'aventure avec une victoire et une défaite au compteur dans le groupe E. Les Calédoniens vont tenter de garder la tête haute contre certains des grands futurs talents de l'équipe de France. Coup d'envoi de ce match Nouvelle-Calédonie-France demain à 7h, heure de Nouméa.
Du football encore, mais en métropole cette fois-ci, avec la fin demain matin pour nous de la 7e journée du championnat de France de Ligue 1. 5 rencontres seront au programme, à suivre Lyon-Toulouse, Monaco-Nice pour le grand derby de la Méditerranée, Le Havre-Rennes, Strasbourg-Angers et Lille-Paris-Saint-Germain. Ce sera le choc de cette journée. Rappelons que ce matin, l'Olympique de Marseille a réalisé une très bonne opération en allant l'emporter 3-0 sur la pelouse de Metz. Marseille qui a pris provisoirement la tête du classement général avec donc les matchs de Paris et de Lyon demain. Les autres résultats du jour avec le match nul 0-0 entre Brest et Nantes et la victoire à l'arraché de Lens 2-1 sur la pelouse d'Auxerre. Rappelons qu'hier, en ouverture de cette journée, le Paris FC s'était imposé 3-0 sur Lorient.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le top 14, le championnat de France élite avec la 5e journée qui se terminera demain matin pour nous avec la rencontre entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain. Deux équipes qui ont entamé la saison de la même manière avec 3 victoires et une défaite dans leurs compteurs respectifs. Il devrait donc y avoir une belle confrontation à demain matin sur la pelouse de Jean Daugé. Ce matin, en ouverture de cette journée, le Stade Français s'est imposé 28-11 sur la pelouse de Perpignan. Pour le reste, que des victoires à domicile. Clermont a atomisé Montauban 84-31. Les Auvergnats qui ont passé quand même 12 essais. Montpellier a battu La Rochelle 37-13. Castres s'est imposé sur le Racing 92, 20-16. Le Toulon l'a emporté 33-17 sur la section paloise. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposé 32-20 sur Lyon. On passe au sport mécanique avec la 18e manche du championnat du monde de Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et à suivre ce soir à partir de 23h le Grand Prix de Singapour au moment de l'extinction des feux ce soir. C'est le Britannique George Russell qui s'élancera en pole position au volant de sa Mercedes. Il aura à ses côtés sur la première ligne le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull. Sur la deuxième ligne, on trouvera la McLaren d'Oscar Piastri et l'autre Mercedes, celle de l'Italien Kimi Antonelli. Les Mercedes en bonne position dans la course au classement par équipe puisque les Ferrari se sont montrés un peu plus en retrait ce week-end. Hier, lors de la séance de qualification, Lewis Hamilton a signé le 6e temps, Charles Leclerc le 7e, le monégasque quelque peu désabusé à l'issue de la séance de qualification.
Ça fait deux week-ends que j'ai pas du tout feeling avec la voiture et encore plus dans ces... Et ce qui est bizarre, c'est que c'est encore dans des circuits urbains où normalement je suis plutôt à l'aise. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille, qu'on comprenne ce qui va pas parce que là, c'est, je suis pas au niveau que je devrais être et on perd des points. Donc voilà. Après, je sais pas si aujourd'hui on avait beaucoup mieux à faire parce que je pense que Lewis, pour le coup, a très bien roulé ce week-end et a été irréprochable depuis la FP2. Donc voilà, je pense pas qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher non plus.
Oui, côté français, c'est une nouvelle fois Isaac Hadjar sur Red Bull Racing qui a réalisé le meilleur temps des tricolores. 8e chrono pour le jeune pilote français qui n'avait jamais roulé sur le tracé de Singapour. Une belle place et pourtant la déception pour Isaac Hadjar qui malheureusement a dû couper son effort dans le tout dernier tour lancé après une erreur de pilotage.
Honnêtement, on a galéré toute la qualif avec la voiture, j'étais vraiment pas à l'aise. On a trouvé un truc pas mal à la fin et honnêtement j'étais sur un gros tour et voilà, j'en ai voulu trop faire et voilà, j'ai perdu la voiture. Tout le week-end on a bien bossé, on était vraiment en maîtrise donc je suis content sur cet aspect-là, mais moi de mon côté j'ai pas réussi à faire un tour très propre de toute la qualif. Donc je suis un peu déçu, j'aurais aimé savoir avec un gros tour où est-ce qu'on aurait pu finir. Je suis à 3/10 de la 3e place donc... Ouais, ça, c'est décevant.
Et c'est le métier qui rentre. Isaac Hadjar qui s'élancera ce soir depuis la 4e ligne. Esteban Ocon sur As et Pierre Gasly sur Alpine ont vécu une qualification très difficile. C'est bien le moins qu'on puisse dire. Ils ont signé les 19e et 20e temps, c'est-à-dire les deux derniers. Ils auraient dû s'élancer en dernière ligne, mais finalement, ce sont les Williams de Sainz et d'Albon qui se retrouveront en fin de grille. Les deux pilotes ont été pénalisés après que leurs voitures ont été jugées non conformes par les commissaires. Le Grand Prix de Singapour, 18e manche du championnat du monde. Ce sera à suivre ce soir pour nous. Le départ, c'est à 23h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Encore quelques mots de sport mécanique avec le Grand Prix de MotoGP, Michael Juneski.
Oui, absolument. En Indonésie, l'Italien Marco Bezzecchi, il y a quelques minutes, qui s'est donc lancé en tête de la course au guidon de son Aprilia. Il est parti devant une armada espagnole, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández. Première ligne inédite, hein, une semaine après le sacre de Marc Marquez, le champion du monde qui, lui, ne s'était lancé que de la 9e place. Côté français, Fabio Quartararo va tenter de tirer son épingle du jeu. Il est parti de la 8e place au guidon de sa Yamaha. Ce sera plus compliqué pour Johann Zarco qui a débuté la course du fond de la grille de la 18e place, un Grand Prix d'Indonésie qui est toujours en cours.
On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Vigilance jaune, forte houle. Une houle de sud-ouest atteindra 3 à 3,5 mètres de l'île des Pins jusqu'à Koné au cours de la nuit prochaine et se maintiendra pour la journée de demain lundi. Prudent donc sur les zones côtières exposées. Cette nuit, sur la majeure partie du pays, le temps restera sec, parfois voilé par quelques nuages d'altitude. Sur le sud-ouest, l'île des Pins et les Loyautés, des nuages bas remonteront, donnant localement de faibles averses. Le vent de sud à sud-est soufflera régulièrement autour de 15 nœuds, il sera plus faible près des côtes et sur la côte est, mais atteindra 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord. Les températures baisseront pour se situer entre 17 et 20 degrés en général, 15 à 17 degrés sur l'ouest et parfois un peu moins aux Loyautés. Demain matin, des nuages bas circuleront sur la moitié sud et marée, déposant de rares averses. Ailleurs, le temps sera sec et largement ensoleillé malgré un voile de nuages élevés. Le vent de secteur sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds, localement jusqu'à 20 nœuds sur le nord-ouest.
Il est 18h18, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.